Importante, 7 kilos. Bon, je suis pas de très près le cours de l'or, mais 7 kilos, ça représente quand même pas mal de valeur. Et il s'agissait, dans ce cadre-là, de récupérer l'or du milieu de copeaux, de poussière de polissage, issus de divers travaux de bijouterie, bref, de limaille, oui, tout ce qui peut receler la moindre poussière, la moindre particule d'or. Après les diverses opérations de travail sur les métaux précieux. Et tout ça, tout cet ensemble dans lequel l'or est dispersé, peut représenter un volume considérable, parce que c'est mêlé, comme je vous le dis, à tout un tas d'impuretés, enfin, et autres poussières et résidus de travaux qui peuvent l'accompagner. Et très souvent, au milieu de ces poussières, l'or qui est caché est complètement invisible à l'œil nu. Et donc, je me souviens, on m'avait confié la responsabilité de partir avec un énorme carton. J'étais comme ça, je voyais pas devant moi avec ce gros carton qui contenait soi-disant de l'or, qu'on ne voyait pratiquement pas, chez un fondeur, donc, assister à l'opération de couler, de fonte de cet or. Sans quitter des yeux, bien entendu. Et donc, j'ai bien tout observé. Il verse le contenu de votre carton dans un creuset. Ce creuset est placé sur une flamme intense. Et là, vous attendez que le feu fasse son effet. Et la première fois, bien sûr, comme c'était le cas, vous êtes curieux. Et vous voyez le niveau progressivement de tout ça qui commence à baisser dans le creuset. Et puis, à la fin, vous vous dites, mais qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va sortir de tout ça? Vous demandez si tout ne va pas partir en fumée. Et puis, un moment vient où tout est fondu. À ce moment-là, la chaleur est intense, la lumière aussi, hein, c'est quelque chose qui éblouit. Et le niveau reste stable, le niveau qu'on a du mal à distinguer comme étant liquide, mais ne baisse plus. Et le fondeur vient alors avec son palan, il saisit le creuset et il le prend et il l'emmène avec son palan, le verser dans un moule en forme de lingot. Et là, vous attendez encore, une fois que cette opération est faite, quelques longues minutes pour que ça se refroidisse, que ça se solidifie. Ça passe par, je ne vais pas dire par toutes les couleurs, non, mais jusqu'à ce que ça devienne rouge et solide. À ce moment-là, il le jette dans l'eau pour accélérer le refroidissement. Et à la fin, donc, du carton initial duquel vous êtes parti, donc vous aviez les bras pleins, comme ça, il vous tend quelque chose qui n'est pas plus gros que ça. Ça, c'est un morceau d'acier, et ça, c'est le volume à peu près de 7 kilos d'or. Ça pèse 3,5 kilos d'acier, mais l'or est deux fois plus lourd. Donc, le même volume en or pèse 7 kilos. Vous êtes surpris la première fois, parce que quand on vous tend un volume comme ça vous surprend, la densité vous surprend quand vous n'y attendez pas. Et ensuite vient le moment du titrage. Alors, le titrage, qu'est-ce que c'est? Le titre, c'est le pourcentage d'or fin, c'est-à-dire d'or pur à 100%, contenu dans le lingot, et lui s'exprime en carats. L'or pur à 100%, c'est comme ça, c'est une unité, le carat, l'or pur à 100% fait 24 carats. Qu'on appelle encore or fin. Et en bijouterie, il faut garantir que tous les bijoux, c'est la législation française et européenne, et plus ou moins internationale d'ailleurs, il faut garantir un minimum de 18 carats, c'est-à-dire 75% de poids, pas de volume, de poids en or fin. Faute de quoi, si vous n'atteignez pas ces 75%, l'alliage que vous avez est considéré comme de la fausse monnaie. Si vous commercialisez un alliage de cette nature qui n'atteint pas les 75%, les 18 carats, c'est de la fausse monnaie. Vous êtes faux monnayeur. Les 25% restants sont composés d'argent, de cuivre et quelques autres impuretés qui peuvent traîner dans le métal. Le titre de l'or que j'avais amené dans mon carton, je le savais puisque il avait été titré avant que les travaux soient effectués, il était de 75,1% on cherche toujours à se rapprocher au minimum, parce que vous ne pouvez pas le vendre plus cher que ce qu'il n'est, mais on se garantit toujours 0,1% pour être sûr de ne pas passer en dessous des 75. Qu'est-ce qui va en être après, une fois passé au feu, hein, on va se poser la question, qu'est-ce qui va en être après quand il va sortir du feu? Et en fait, vous constatez qu'après analyse, après titrage, le titre a monté. Les impuretés qui étaient contenues dans le métal ont brûlé, disparu, volatilisé avec les autres résidus, et le titre avoisine maintenant les 76%. Vous comprenez où je veux en venir. 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 3. Pierre 1, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. » C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Pierre donc compare ici l'épreuve de notre foi à l'œuvre purificatrice du feu sur l'or. L'or qui sort du feu est plus pur que celui qui est entré. Et ce passage, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous vous souvenez qu'on l'a déjà lu il y a 3 semaines, lors d'un message de Samuel sur la tentation. Et d'ailleurs, nous allons relire plusieurs passages qui ont été lus à cette occasion-là. Mais si Samuel avait orienté sa prédication sur la tentation, je voudrais aujourd'hui plutôt qu'on aborde la question de l'épreuve, le thème de l'épreuve. Et en fait, il est assez difficile de faire une dissociation épreuve-tentation, parce que dans le texte original, la plupart du temps, c'est le même mot qui est employé. Et c'est sans doute, je suppose, le contexte qui a amené les traducteurs à choisir l'un ou l'autre, selon les cas. Mais il faut bien garder à l'esprit, tout au long de ce que nous avons dire et lire ce matin, au départ, c'est presque toujours le même mot, épreuve et tentation. L'épreuve n'est pas l'apanage des seuls chrétiens. La semaine dernière, il y a eu près de chez nous un accident mortel. Tout près de chez nous, une dame de 80 ans y a trouvé la mort. Sa fille a été sérieusement blessée. Et la personne qui a causé l'accident, qui se trouve par ailleurs être une connaissance de Michael, eh bien, a causé l'accident pas par comportement dangereux, mais probablement par manque d'expérience. Elle était très jeune conductrice. Elle a été blessée également, mais aussi est également très affectée, hein, des conséquences irréversibles de cet accident. Chacune des parties souffre différemment, mais profondément, de cette épreuve. Dans Job, on trouve un verset qui dit « L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. » Si on prend une étincelle de bois, hein, c'est une petite particule de bois qui est projetée d'un feu et qui traverse l'air jusqu'à ce qu'elle retombe sur le sol. Et tant qu'elle est en l'air, la combustion continue. Elle est alimentée par l'oxygène de l'air qu'elle traverse, mais dès qu'elle arrive sur le sol, elle ne reçoit plus cette alimentation en oxygène et là, elle s'éteint. La souffrance fait partie de la condition humaine. Et croyant ou non, l'homme qui ne souffre plus est un homme mort. Seulement, tout de même, chez le croyant, l'épreuve s'inscrit dans une dimension spirituelle. S'il marche avec fidélité dans les pas de son Seigneur, inévitablement, il replacera la survenue de l'épreuve dans une perspective spirituelle. Peut-être qu'il ne va pas chercher forcément à tout prix à connaître la cause, de cette souffrance. Non, pardon, excusez-moi. Il va chercher probablement à connaître la cause de cette souffrance, comme Job a tenté de le faire sans jamais obtenir de réponse. Mais il admettra aussi que la souffrance fait partie de la condition humaine, fait partie, qu'il partage avec toute la race humaine l'épreuve. Mais aussi, ce sera pour lui l'occasion de se rapprocher de Dieu, d'apprendre de lui, de dépendre de lui, rechercher sa face et sa foi, comme l'or en sortira plus authentique et plus pur. Alors, personnellement, je ne suis pas trop de ceux qui vont chercher la cause de dures épreuves dans la fidélité de leur engagement auprès du Seigneur. Bien sûr, je pourrais citer plusieurs personnes dont il est manifeste que la fidélité a attiré de gros ennuis et sur lesquels l'adversaire s'est acharné durement, longuement, tout au long de leur vie, sur eux-mêmes et sur leur famille, à cause de leur fidélité à Dieu. Mais Jésus, en étant bien sûr le premier, et Job en étant peut-être un exemple, partiellement un exemple qu'on trouve dans la Bible, mais je pourrais aussi citer d'autres personnes qui se sont égarées sur des voies qui n'étaient pas les leurs, qui ont suivi un chemin qui n'était pas tracé par Dieu et qui ont récolté de leur entêtement des épreuves terribles pour eux-mêmes et pour leur famille et qui continuent aujourd'hui de justifier ces épreuves par leur fidélité à Dieu. Si les choses vont comme elles le souhaitent, alors c'est Dieu qui ouvre des portes. Et si les choses ne vont pas dans le sens qu'elles le souhaitent, alors c'est Satan qui met des bâtons dans les roues. Rien ne peut plus les atteindre. Plus aucun raisonnement ne peut les remettre en question. Leur vision des choses, tout ça fait que tout ce qui arrive ne peut que justifier à leurs yeux qu'elles sont sur la bonne voie. On peut trouver dans l'épreuve tellement de raisons de se justifier, comme dans d'autres domaines. Mais vous connaissez ce proverbe, qui est un proverbe de la Bible, « Qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. » Comme il est mieux que ce soit d'autres que nous qui disent du bien de nous, il est également mieux aussi de laisser à d'autres le soin de nous comparer à Job, du moins pour les causes de ses souffrances, et encore, parce qu'on pourrait toujours dire que si effectivement la fidélité dont Dieu parle et que Dieu approuve en Job est le point de départ de tout ce qui suit derrière, c'est quand même aussi, il y a quand même une notion de défi qui est lancée à la face de Dieu par Satan, qui est aussi quand même à l'origine de tous ces problèmes. Le cas de Job est un cas tout à fait spécifique. Qui mieux que Jésus aurait pu s'étendre sur le sujet pour lui-même ? Lui qui a été tenté par Satan lui-même. Il pouvait, Jésus, légitimement proclamer que l'épreuve de la tentation qu'il venait de subir au désert avait pour raison sa fidélité sans faille à son Père dans la mission qui lui avait été confiée. S'il l'avait dit, ce n'était que l'exacte vérité. Et pourtant, il est resté humble à ce sujet, comme nous sommes invités à le faire. Job, pour sa part, n'a pas eu connaissance des raisons profondes de son épreuve tout le temps qu'elle a duré. C'est clair dans la Bible, on le voit bien. Tout le temps que dure son épreuve, il ne sait pas pourquoi tout ça lui arrive. Et rien ne dit non plus, d'ailleurs, qu'il en ait connaissance après. Vraiment, nous ne pouvons pas dire pour nous-mêmes. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. La raison, il peut qu'on la connaisse, mais la plupart du temps, non. Et la plupart du temps, elle nous échappe. Mais plus important que cette question, pour quelle raison, pourquoi, une question bien plus importante, dans quel but? Et Pierre nous donne clairement la réponse, à purifier notre foi. Regardons les choses en face, et de là se dégage une possibilité aussi, que je laisse à votre appréciation, peut-être moins flatteuse pour nous et plus réaliste. Tant que les épreuves continuent d'arriver, ça veut dire qu'il reste encore du travail. Dieu n'en a pas encore fini avec nous. Et alléluia. J'aime aussi ceci. Je ne sais pas si tout le monde voit bien ce que c'est. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas apporté le contenu de mon sachet d'aspirateur pour venir le vider parmi vous. Mais enfin, on n'est pas si loin, c'est quand même des résidus d'impureté, des résidus de travaux de polissage, de bijouterie. Et si, là, si je vous disais que là-dedans, le tiers du poids, c'est de l'or, peut-être vous auriez du mal à me croire. Et vous avez raison, parce qu'en fait, je ne me suis pas amusé à sortir de mon entreprise de l'or pour vous le présenter ici. Et la seule chose qu'il y a là-dedans, c'est de la poussière de polissage, de métaux non nobles comme de l'acier ou autre. Mais voilà, ça pourrait. Ça pourrait, ça se présenterait exactement de la même manière, cette espèce de poussière sale. Alors je ne mets surtout pas les mains dedans parce que je vais avoir les doigts noirs pour le restant de la journée. Cette espèce de poussière sale, grasse, eh bien, pourrait contenir, sans qu'on le voie de l'extérieur, un tiers, 30% de quantité de poids en or. Nos vies peuvent ressembler parfois à ce sachet de poussière sale. Tant qu'elles ne sont pas passées au creuset de l'épreuve, on ne sait pas vraiment quelle quantité de foi et contenu on va y trouver. On ne sait pas quelle est la part d'impureté qui l'altère. On ne sait pas non plus quelle est la part de semence qui est tombée parmi les pierres. Et là, on va prendre la parabole de Jésus sur le semeur, son explication en Matthieu au chapitre 13. Verset 20. Matthieu 13, 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Il ressort de tout ce que nous venons de lire que l'épreuve est non seulement inévitable, mais plus encore indispensable, nécessaire. Qui donnerait un copec de ce sachet de poussière, hein? Et pourtant, l'épreuve va permettre de révéler que là-dedans, peut-être, on va trouver une certaine valeur. L'épreuve, lorsqu'on la considère dans sa dimension spirituelle, est le témoignage que Dieu, loin de nous abandonner, comme nous pouvons être amenés à le croire, nous reconnaît comme les siens et est en train de s'occuper de nous. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Zacharie. Au chapitre 13 et au verset 8. Zacharie 13, 8. « Dans tout le pays, dit l'Éternel, les deux tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Et il dira, l'Éternel est mon Dieu. » Une missionnaire anglaise disait à une jeune femme qui vivait une épreuve difficile, « Alors, ça veut dire que Dieu t'aime beaucoup. » Et c'est à quoi la jeune femme a répondu avec humour, évidemment, il ne pourrait pas m'aimer un peu moins. L'épreuve est nécessaire et laisse une trace de Dieu dans nos vies. Elle purifie notre foi, la débarrasse de tout ce qui peut l'encombrer. Et je vais juste faire une petite parenthèse ici sur la question du purgatoire qui peut-être est moins d'actualité de nos jours, mais dans mon enfance, j'ai souvent entendu dire que telle ou telle personne souffrait et avait accompli partiellement ou totalement son purgatoire sur la terre. Alors, sans revenir sur la doctrine du purgatoire qui ne trouve pas sa justification dans la Bible, nos épreuves n'ont aucun effet sur notre salut qui, lui, relève, notre salut relève d'une épreuve, celle que Jésus a vécue sur la croix et l'épreuve ultime qu'il a surmontée en versant son sang sur la croix. L'œuvre bienfaitrice et purificatrice de l'épreuve s'exerce sur celui qui croit déjà et dont le nom est déjà inscrit dans le livre de vie. Rechercher l'épreuve pour parfaire son salut revient à nier l'efficacité, l'action salvatrice du sang de Jésus. Et d'ailleurs, on peut aller plus loin, toute forme de recherche d'épreuve ou de souffrance volontaire serait sans doute malsaine et ne pourrait que nous égarer sur un chemin qui n'est pas tracé par Dieu. Épreuve, tentation, on l'a dit, c'est le même mot sur l'origine, surviendront inévitablement dans notre marche avec le Seigneur. Et lui-même sait mieux lesquels et quand nous serons prêts à affronter. Se placer volontairement dans l'épreuve ou dans la tentation nous projetterait au cœur de la bataille sans armes et sans armure. Mais je me suis demandé tout de même si on pouvait étendre à cette question de l'épreuve la parole de Jésus. Demandez, on vous donnera. Hein. Seigneur, envoie-moi une épreuve. Est-ce qu'on pourrait parler comme ceci ? Alors, peut-être sans aller jusque-là, il y a quand même des choses dans le psaume 26, et je pense que vous vous souvenez du dernier chant qu'on a chanté, hein, « Sonde-moi, ô Dieu, éprouve-moi et connais mon cœur. Hein, » Donc on va lire une partie d'un verset d'un psaume qui dit un petit peu la même chose, le psaume 26, verset 2, « Sonde-moi, éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. » Oui, David demande, d'une certaine manière, l'épreuve, demande à ce que ça, et semble aspirer à ce que sa foi soit éprouvée. Paul se réjouit dans les souffrances qu'il endure pour les Colossiens. Et les apôtres sont carrément joyeux, sortent du Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Alors je crois mieux peut-être comprendre le sens d'un tel désir, en fait, à la lumière d'un parallèle qui peut être fait avec les examens scolaires ou universitaires. Beaucoup d'entre nous ici ont passé des examens récemment, parmi les jeunes, les lycéens, les étudiants. Et à l'approche de l'examen, ils savent bien que l'examen est aussi appelé épreuve, entre parenthèses. Hein, ils savent bien que, tout en redoutant ce moment qui va être un moment où, de concentration intense et où leur connaissance et la tournure de leur raisonnement va être mis à l'épreuve précisément, tout en le redoutant, ils aspirent aussi à arriver à ce moment-là et à surmonter cet instant parce que derrière, il y a une reconnaissance de la part du corps enseignant qui dit oui, son niveau de connaissance est suffisant, il a surmonté cette épreuve victorieusement. Et l'étudiant peut ainsi se jauger, faire le point, s'étalonner et se rassurer. Hein, simplement dire oui, ok, je n'ai pas travaillé en vain. Ce à quoi j'ai travaillé, a porté ses fruits. Être confronté à l'épreuve est bénéfique pour authentifier notre attachement au Seigneur. Et bien sûr, on peut tout à la fois la redouter et l'espérer pour se mesurer et se rassurer. Nous avons dit qu'au début, épreuve et tentation sont deux choses très difficiles à distinguer. On saisit bien quand même une nuance, hein, qui nuance les deux choses. Il est évident qu'une maladie, par exemple, a plus un caractère d'épreuve que de tentation. Mais au cœur de la maladie, lorsque vous vous trouvez au cœur de la maladie, plusieurs personnes peuvent en témoigner parmi nous, la tentation peut apparaître tout à fait directement, tout à fait distinctement. Et on va lire un passage où c'est arrivé à Job au tout début de sa maladie. La tentation prend une forme particulièrement directe. Job au chapitre 2 et le verset 9. Donc après que Job ait perdu ses enfants, ses serviteurs, toutes ses richesses, et puis qu'ensuite il était saisi d'un grave problème de santé, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Voilà, si là il n'y a pas une tentation de la part de quelqu'un qui lui est proche, voilà. Job répondit, tu parles comme une femme insensée, quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? Et là, il est dit carrément qu'en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres, c'est-à-dire que l'Écriture approuve la réponse que Job donne à cette tentation. Mais pourtant, on sait bien que par la suite, il finit par céder à la tentation du découragement, beaucoup plus sournoise. L'angoisse au cœur de la maladie, comme de toute autre épreuve, peut survenir comme une tentation tout à fait pernicieuse et cachée, et si ce n'est pas pour nous-mêmes, ça peut être pour nos proches. La tentation va survenir au cœur de l'épreuve, ça ne fait aucun doute, et c'est sans doute là, peut-être, qu'elle sera le mieux cachée, le plus pernicieuse, plus que probablement dans le bar enfumé d'un quartier glauque, ou dans la vanité d'une manifestation mondaine et distinguée. Mais si, alors, par un concours de circonstances que je n'ai pas choisi, hein, à l'issue de mon plein gré, comme on le disait il y a quelques années, en cas particulier, si je me retrouve dans cette situation que je citais, le bar enfumé, le quartier glauque, ou dans une manifestation mondaine et distinguée, et exposé à des tentations que je n'ai pas cherchées, alors là, je vais me trouver exposé à convoitise des yeux, convoitise de la chair, orgueil de la vie, hein, ce qui sont les trois chemins qui conduisent au péché selon ce que Jean décrit dans sa première épître. Et ça constituera une vraie épreuve pour ma foi. Voici en quoi donc les deux choses, épreuve et tentation, sont si intimement liées. Toute épreuve recèle sa part cachée de tentation, et toute tentation met notre foi à l'épreuve. Et peut-être ce qui peut nous permettre d'établir une nuance entre les deux, épreuve et tentation, relève plutôt de la terminologie. Et je m'explique, on va pour cela prendre l'épître de Jacques. Au chapitre 1, au verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Jacques, ici, est extrêmement clair. Dieu ne tente personne. Que personne ne dise « c'est Dieu qui me tente », ça ne peut pas être plus clair que de cette manière-là. Et Satan, d'ailleurs, lui, est appelé le tentateur. Il n'y en a pas d'autre. Mais, curieusement, ici, Jacques ne le mentionne pas. Non pas sans doute que Satan ou ses acolytes n'agissent pas ici ou là, d'une manière ou d'une autre, mais Jacques explique bien ici le mécanisme qui conduit de la tentation au péché et trouve essentiellement sa source dans ce que la nature humaine a hérité du péché originel. Voir des démons dans toute tentation nous ôterait toute lucidité sur nous-mêmes et nous bercerait de tant d'illusions. Mais cependant, il faut bien voir les choses selon une perspective spirituelle. Et si Dieu désire nous voir progresser et surmonter des épreuves et les tentations, nous avons un adversaire. Nous ne pouvons pas nier le diable qui se réjouirait, lui, de nous voir abattus, déprimés, angoissés, rejetant Dieu, évidemment, et nous voterons dans le péché. Et pour cela,
on va reprendre, regarder une petite image.
Voilà, donc un brave chrétien qui se retrouve marcher tranquillement sur sa route. Et puis, là, survient
une difficulté. On ne va pas l'appeler épreuve, on ne va pas l'appeler tentation. On va dire que c'est un événement, une difficulté. Mais lui, le diable, se tient ici. C'est là qu'il nous attend. C'est là qu'il va se réjouir de nous voir chuter, de nous voir renoncer, abattus ou autre, ou carrément prendre un autre chemin. Ou alors, et ça c'est la perspective du diable. C'est-à-dire que la même difficulté pour lui est l'occasion et l'espoir de voir chuter. La même difficulté pour Dieu, c'est l'épreuve. Et là, nous sommes conviés à la réussite. En bas, c'est l'échec. En haut, c'est la victoire. Pour chacun a sa perspective. Un même événement, une même maladie, la perte d'un proche, des difficultés de tous ordres, mais deux perspectives différentes. Le désir du diable est de nous accuser dans l'épreuve. Celui de Dieu est de nous purifier. La perspective de l'adversaire, c'est l'échec. La perspective de Dieu, c'est la victoire. Une négative, celle d'un adversaire qui est vaincu, engagé dans un combat d'arrière-garde. Et l'autre positive, celle d'un Dieu qui veut nous voir aller de l'avant, surmonter l'épreuve et nous rendre victorieux. Dans mes temps libres, je compte quelques heures dans la semaine pour faire du vélo, et ça depuis mon enfance. Et alors, bon, c'est assez surprenant que j'ai compris ça qu'au bout de 50 ans, mais enfin, c'est comme ça. Je fais du vélo sur des routes assez difficiles, avec des cailloux, enfin, en très mauvais état, des branchages qui tombent au moment des orages, des nids de poules. Il faut sans arrêt chercher le meilleur chemin. C'est la topologie de la région dans laquelle j'habite qui fait ça. Et alors, j'ai constaté ceci, c'est que quand je vois un caillou qui est un obstacle quelque part qui s'approche, sur lequel je risquerais de tomber ou d'abîmer mes roues, j'avais remarqué que je fixais bien, et puis surtout pour ne pas l'éviter. Et puis à chaque fois, boum, dedans. Pourquoi ? Bizarre, pourtant je mettais toute mon énergie à bien le regarder pour l'éviter, mais pas à chaque fois. Hein, mais ouais, il y avait quelque chose de bizarre, comme si dans le corps, en fait, était programmé pour aller dans les directions que vos yeux fixent. À l'insu de votre... plein gré, mais à l'insu de votre volonté. Et puis, au bout de 50 ans, enfin, je me suis rendu compte que si je regardais au-delà de ce caillou, si mes yeux se portaient sur la route plus loin que ce caillou, je pouvais passer très près du caillou, de l'épreuve, de la branche, de la difficulté, du nid de poule, mais l'éviter. Donc, dans l'épreuve, notre regard a tendance à se focaliser sur la difficulté. Et plus nous la regardons, et plus elle nous paraît insurmontable. Regardez au-delà, viser un point qui se situe au-delà de l'épreuve, permet de donner à celle-ci une dimension moins effrayante. C'est une technique qui est peut-être plus de la psychologie qu'une vraie démarche spirituelle, mais en même temps, c'est vrai, quoi. Et Paul aussi utilise également cette technique avec l'appréhende de manière spirituelle dans l'Épître aux Philippiens, au verset 3. Chapitre 3, pardon, versets 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Pour lui, comme pour tout croyant, le point qu'il peut viser ne se situe pas maintenant sur l'épreuve. Il ne se situe même pas d'ailleurs dans sa dimension spirituelle à l'instant qui suivra l'épreuve. Il se situe bien au-delà. Il se situe là où réside son espérance, Jésus, la personne de Jésus. C'est ce que nous avons chanté ce matin. C'est ce qu'Éric a évoqué. Nos regards peuvent se fixer constamment, sans crainte, sur la personne de Jésus. Donc, quand survient l'épreuve, notre regard, ici, porte, évidemment, peut porter ici, mais peut porter là où se trouve la pleine lumière, Jésus-Christ. Et c'est là que nous sommes attendus avec patience, avec amour. Amen.